20 ans de poésie aux éditions du Passage et Anne-Marie Aubin, vous avez lu deux recueils pour souligner ce 20e anniversaire. Bonjour d'abord.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, donc, vous commencez par nous présenter « Arbre debout sur nos paupières ». Quel titre intriguant.
Oui, ben c'est en fait, c'est inspiré d'un vers d'Éluard. Il faut savoir que les éditions du Passage, c'est pas uniquement de la poésie qui est publiée. Hein. Ils ont des beaux livres, ils ont plusieurs collections. Ouais. Ils ont été fondés en 1999 et je me souviens, entre autres, du bestiaire, des deux bestiaires qu'avait publié Serge Bouchard, puis aussi sa compagne Marie-Christine Lévesque, qui y a travaillé quelques années. Ils ont fait des beaux livres. Et la collection de poésie, si certains les ont vus en librairie, elle se distinguait parce que sur la couverture, il y avait un fil rouge cousu comme une reliure d'autrefois.
Oui.
Et là, pour les 20 ans, ils ont repris l'idée du fil rouge, mais au lieu de le coudre sur la couverture, il est comme en relief sur la page couverture avec une ombre. C'est quelque chose de très beau. Donc, ils ont refait la maquette, la refonte graphique de cette couverture-là. Et pour inaugurer la collection dans sa nouvelle image, ben, il y a deux titres, dont « Arbre debout sur nos paupières » de France Caillouette. C'est un petit recueil de 92 pages. France Caillouette est née en Gaspésie, à Bonaventure, et puis elle vit maintenant à Carleton. Elle a longtemps enseigné au cégep, et puis elle a publié des haïkus, entre autres, et elle a collaboré à des collectifs. Parmi ces thèmes qu'elle aborde dans ce livre-là, bien sûr les arbres, tels que le titre nous l'indique, mais aussi toute la nature et le paysage qui l'habite finalement, parce qu'elle est née ici et donc elle a grandi dans ce décor immense qu'est la Gaspésie, et ça se sent dans ce qu'elle écrit. Il faut savoir que plusieurs textes de ce recueil ont fait l'objet d'une lecture publique au printemps dernier, je crois, ou l'an dernier, à Carleton, dans le cadre d'un programme de partenariat territorial, puis aussi avec une aide financière du CALC et plusieurs partenaires. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant une session? Elle a recueilli des témoignages de gens dans leur rapport avec les arbres. Puis ici, ben, c'est très important, les arbres. Hein. D'une part, c'est la façon de gérer les forêts, mais c'est aussi un lieu où on va aller à la chasse, on va aller faire des vacances. La forêt est très importante. Donc, ces textes-là qu'elle a recueillis ont inspiré, c'est ce qu'elle dit, l'autrice, pour finalement rédiger ces textes. Son recueil, ce sont des fragments à caractère poétique. Parfois, c'est de la prose, parfois, c'est des petits récits. Et le recueil se divise en trois grandes parties. Le premier, c'est « Apprenti peuplier », »,« Apprenti au féminin ». »,« Entre la peau et l'écorce », c'est le second, c'est le plus important. Et le dernier, c'est « Gravir l'horizon », qui est plutôt bref. Alors, dans Apprenti peuplier, elle observe autour d'elle. On l'imagine assise dehors, près des arbres, à observer les mouvements de la nature, des oiseaux, le vent, le paysage, le ciel. Je vous cite un exemple. Les bernaches atterrissent, grandes ailes retenues derrière. Je ne parviens pas encore à projeter le cœur comme elles. Celui de chaque personne est d'environ une fois et demie la taille de son poing. Depuis que j'ai appris, que je l'ai appris, je ne donne plus la main de la même manière. Donc, une observation ici. Ensuite, il est question des phénomènes de la nature, par exemple l'érosion. Elle va dire, nous formions un quatuor le long de la falaise. Nous étions ces vieux pins jaillis de la ligne d'horizon. Nous étions l'horizon, peintre de l'immensité, des bateaux hissant l'aube en secret. Nous ne sommes plus que deux. Nous entendons encore le bruit mât de la chute des deux premiers sur les galets, la voix éraillée du vent dans leur feuillage sec au bout de quelques semaines. Ils sont partis à des années d'intervalle. Nous partirons ensemble au premier dégel, grande coulée sous les étoiles. Bon, les arbres, effectivement, que la falaise voit disparaître avec l'érosion. Ici, c'est un problème qui est pas unique à la Gaspésie, mais qui est quand même, inquiétant. Et dans la troisième partie, ça s'appelle « Gravir l'horizon », celui-là est plus bref. C'est donc la prose poétique, des petits textes comme ça. C'est comme si l'autrice ouvrait devant nous son carnet d'observation dans lequel elle écrit et nous livre des fragments de ces textes-là, assise sans doute sous un arbre. Elle décrit le paysage, le temps qui passe, la lumière qui change. Donc, c'est un recueil, je dirais, de contemplation et puis aussi une interrogation sur ce qu'elle fait. Je termine avec cette citation. C'est peut-être aussi cela, écrire. Tenter de se regarder soi-même comme nous regardent les bouleaux. Laisser se détacher de son corps de fine lame de mots, n'être rien de plus que le support du vent.
Voilà. C'est très beau. Alors, et vous disiez tantôt que « Arbre debout sur nos paupières » était un vers de Paul Éluard. Est-ce qu'il en est question dans ce récit, ce recueil?
Non, mais elle le cite à la fin. Ça fait partie d'un poème célèbre qui s'appelle « L'amoureuse ». Et c'est le premier vers de ce poème-là qui lui l'a inspiré pour trouver un titre. Et puis, comme il est question des arbres, lui, il disait pas « arbre ». Il disait, attendez, c'était quoi, ma tête sur tes paupières, quelque chose comme ça, là.
Ah, c'est, ma tête sur tes paupières, on va essayer de trouver ça. France,
elle est debout sur mes paupières, c'est
comment?
Ça.
Comment? Dans
elle est debout sur mes paupières dans le poème « L'amoureuse ».
Donc, le recueil de France Caillouette, lui, s'intitule « Arbre » au pluriel, « Debout sur nos paupières » et c'est publié aux éditions du Passage avec un beau fil rouge. Ouais. Autre recueil, toujours publié au Passage, « Les visages de Rembrandt » par Alain-Bernard Marchand.
Oui, c'est un auteur que je ne connaissais pas, mais qui a publié beaucoup, beaucoup de titres. Il est né à Shawinigan, au Québec, en 1958, et puis il vit maintenant à Ottawa. Il a étudié dans la région d'Ottawa, mais aussi à Grenoble, et puis il a été chargé de cours en littérature, mais maintenant il est directeur des services de rédaction et de relations avec les médias au ministère du patrimoine canadien. Et dans ses passions, entre autres, il aime beaucoup l'art, et puis bon, ben, ce recueil-là nous propose un parcours parmi les autoportraits de Rembrandt. On est dans les années 1600, il faut savoir qu'on faisait pas des selfies et que quand on voulait peindre son portrait, on avait un miroir et puis on peignait. Et puis c'était très courant. Van Gogh en a fait plusieurs. Je me suis beaucoup intéressée à l'évolution de ses autoportraits. C'est très intéressant. C'est ce qu'il fait avec Rembrandt. Rembrandt en aurait fait près de 100 au fil des années. Et donc, on le voit changer, on le voit vieillir, on le voit différent dans la palette aussi, dans la façon de peindre, ou de même parfois c'est au crayon ou à la plume. Alors, à travers cette observation, ben, il écrit d'abord le titre de l'œuvre et la date. Là, on va voir avec notre téléphone ou notre ordinateur de quoi il s'agit. Et là, lui nous donne un texte là-dessus sur la page de gauche. À la page de droite, il fait un commentaire. Alors, il y en a 40 qu'il aurait réalisé entre 1625 et 1669, je crois. Donc, on évolue dans le temps. Et puis, il nous apprend à voir au-delà de l'autoportrait. Parce que, oui, c'est toujours Rembrandt. Parfois, il est caché dans une foule. Il est très discret. Parfois, c'est lui, vraiment en gros plan.
Où est Rembrandt?
Oui, puis toujours accompagné parfois de Saskia. Des fois, il a l'air à la fête. Des fois, il a l'air jeune. Des fois, il est échevelé. Et il nous décrit finalement comment on peut l'interpréter. Il y a une courte réflexion de l'auteur en italique. Et aujourd'hui, 400 ans plus tard, comment on regarde ce tableau-là? Bien sûr, on a connu bien d'autres peintres depuis et on peut voir que certains ont été influencés. Donc, le texte, c'est à la fois de la poésie et de la prose poétique à propos de ces autoportraits. C'est divisé en deux parties. La plus importante, c'est les visages de Rembrandt, où là, il y a les 40 autoportraits datés avec le titre que l'on peut aller voir et lire le texte. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai un titre qui s'appelle « Autoportrait au grand nez », qui aurait été peint entre 1626 et 1630. En fait, c'est un dessin à la plume, c'est pas une peinture. Il dit « Si le portrait au grand nez, il tiendrait au creux de la main. Il est si petit, comme une mésange perchée sur la ligne de vie et bombant le torse. Un gribouillis de matière ne craignant ni l'eau forte ni la pointe sèche, faisant des traits de plume, des hachures et des tourbillons. Ce que voit le miroir, le papier le verra. » Donc, on voit très bien que par le miroir, il décrit le tableau et ce portrait, il dit qu'il est petit, il tiendrait dans le creux de la main. Donc, comme une petite mésange qui vient. Alors, ça, c'est intéressant. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi un lien avec l'autre recueil que j'ai lu, bien sûr, coup sur coup. Quand France Caillouette parle d'un point à propos du cœur, bon, lui, il va dire à propos de Rembrandt aux yeux hagards, un point qu'on ferme suffirait à contenir la tête, l'effroi comme la mer, au bord des yeux. Entre les lèvres, un oiseau noir, plongé dans l'acide, puis rasant les flots insondables. Par une nuit de tempête au large des côtes, n'existant plus que parce qu'il exclut mon regard qui l'empêche de sombrer. Alors, finalement, lui aussi, il a la même image sur le point. Ils ont des points communs dans leur façon de traiter de deux sujets complètement différents. Et puis, bon, ben, il fait des liens avec les peintres contemporains, forcément, parce que lui, il vit aujourd'hui, donc ce qu'il voit en 1634 peut finalement lui faire penser à d'autres. Je donne l'exemple de Autoportrait au chapeau de velours, qui est une huile sur bois de 1634. Il dit « Crépitement du visage que foudroie le soleil de Van Gogh, les restes d'un ciel du nord dans le blanc de l'œil, jaune de plomb, bleu d'azurite, remonté des entrailles de la terre, un peu de rouge comme un automne ayant tourné à l'aigre, par petites touches, le peintre met le feu au bois et se regarde brûler. » Effectivement, Van Gogh aurait été influencé par Rembrandt, comme bien d'autres aussi, parce que lui-même aussi va faire beaucoup d'autoportraits. Ensuite, ben, dans la dernière partie, qui s'appelle Rembrandt au visage défiguré par les mots, ben là, lui aussi, il s'interroge sur finalement le travail qu'il fait, l'écriture, finalement, l'inspiration. Et puis, nous présente l'atelier du peintre comme un cabinet de curiosité. Effectivement, les objets que l'on voit autour du peintre en autoportrait sont toujours très symboliques, ils ne sont pas là par hasard et ils sont choisis. C'était comme une mise en scène, finalement. Alors, c'est un recueil qui est très intéressant à lire et qui donne à voir en même temps.
Oui.
L'auteur nous guide comme si on faisait une visite d'une galerie d'art avec lui dans le temps, entre 1625 et 1669. Ils sont classés, les autoportraits, chronologiquement, ce qui nous permet de voir Rembrandt à différentes époques. Sa tête change forcément. Et puis l'auteur est un...
Il reste quelques secondes.
Oui, bon, ben enfin, je n'ai qu'à dire qu'il faut le lire avec l'image dans son téléphone ou son écran,
okay,
pour faire une visite.
Merci beaucoup, Anne-Marie.
Au revoir.